entrevue. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chers auditeurs, chères auditrices de Shalom Bourgogne, je suis aujourd'hui avec Madame Océane Godard, députée de Côte d'Or. Nous allons traiter d'un sujet évidemment très sensible, qui est le sujet des violences sexuelles contre les enfants. C'est une entrée parce que les violences, évidemment, ne se réduisent pas seulement aux enfants, mais c'est quand même un sujet d'actualité. Bonjour, madame.
Bonjour.
Le diagnostic que vous allez rappeler en quelques mots est fait. La situation est extrêmement grave, mais elle commence à être connue. Comment vous voyez ce diagnostic et comment vous voyez les engagements, déjà au niveau législatif, qui peuvent être faits par rapport à cette situation dramatique que vit notre pays ?
Bien, vous avez raison. Déjà, le diagnostic, il est dramatique. C'est un enfant. Je ne sais pas combien de temps va durer notre interview, mais si on part du principe qu'elle dure un peu plus de 10 minutes, eh bien, entre le moment où nous commençons, là, tout de suite, l'interview, et le moment où on va la terminer, il y aura au moins deux enfants dans ce pays, dans notre pays, qui seront victimes d'inceste, puisque c'est un enfant toutes les 3 minutes en France qui est victime d'inceste. Et évidemment, ça fait plusieurs années et c'est intolérable. Et en témoigne aussi le crime récent, monstrueux, dramatique de la petite Liana, hein, qui a évidemment remis aussi ce fléau, je parle volontairement de fléau, devant nos yeux, et c'est insupportable. Alors, d'un point de vue législatif, ça fait maintenant plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, qu'il y a une coalition d'associations, de professionnels, d'élus qui s'est formée de manière à émettre des préconisations, des propositions aux législateurs notamment. Je pourrais aussi parler de la commission d'enquête qui a été menée d'ailleurs avec beaucoup d'expertise par le juge Durand il y a quelques années, qui a permis là aussi de faire plus d'une centaine de recommandations. Donc, ça veut bien dire que dans notre pays, le diagnostic est fait, on a des constats, on a bien compris qu'il y avait un fléau. Pour autant, il y a un vrai problème au niveau de l'action, en témoigne là encore le crime de la petite Liana et d'autres crimes. Donc ça, c'est juste insupportable. Maintenant, il y a cette loi intégrale qui est travaillée, qui est portée par notamment ma collègue Céline Thiébaud-Martinez, qui est députée socialiste, avec cette coalition dont je parlais, de manière à là faire des propositions très concrètes sur la justice, on va en reparler après très certainement, l'éducation, au niveau de la police aussi. Donc il y a tout un pan de prévention, un pan évidemment de répression, mais c'est ça qui me semble très intéressant. Dans cette loi, c'est qu'elle considère en tout cas ce fléau de manière systémique, pas que sur d'un point de vue répressif. J'entends parler d'augmenter les peines, etc. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça qui, vraisemblablement, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Si on agit uniquement sur les peines, ça ne fonctionne pas. Donc cette loi, elle me semble intelligente.
Alors, vous parlez de cette loi qui semble faire la synthèse et finalement d'arriver à quelque chose de cohérent et d'efficace peut-être un jour, mais il y a la Civise, il y a le travail qui est fait sur l'ASE, il y a une nouvelle loi sur la protection de l'enfance, il y a les 49 propositions là, récemment d'une nouvelle commission. Pour nous, les citoyens français, c'est quand même très compliqué de s'y retrouver. Donc si vous pouviez en quelques mots nous dire un petit peu les pistes de travail pour effectivement qu'il y ait un peu d'efficacité, sachant qu'il y a une question de moyens qui semble quand même fondamentale du côté de la police et de la justice, puisque dans l'affaire Liana, il y a probablement des questions humaines importantes, mais il y a aussi des questions de moyens qu'on retrouve dans l'ensemble du pays, puisque notre pays est un des pays les plus pauvres pour ce qui est du financement de sa justice, notamment.
Oui, vous avez raison. Je comprends que du point de vue des citoyens, ce soit très compliqué. Maintenant, je voudrais juste dire que ce fléau dont nous parlons, qui est l'inceste, le viol, les violences sexistes et sexuelles commises sur des enfants, sur des femmes aussi, c'est complexe. C'est pas qu'une histoire de, j'entends parler de prédation, de maladie ou que sais-je. On est sur quasiment 100% des pédocriminels, c'est-à-dire de ceux plus de 90% ce sont des hommes, qui commettent ces violences, ces crimes sur, parce que ce sont des crimes sur des enfants ou sur des femmes, à 100% quasiment, ils ont vécu cela pendant leur enfance. Donc ça témoigne bien de la dimension systémique. C'est pour ça que cette loi intégrale, elle reprend, vous parliez de la loi sur la protection de l'enfance, il y a d'autres, effectivement, il y a eu des préconisations faites dans le cadre de la Civise, il y a eu différentes commissions qui sont mises en place, qui ont émis des propositions. Cette loi intégrale reprend et elle fédère toutes les propositions qu'il y a pu avoir. C'est pour ça que je parlais de loi intelligente, parce qu'elle conçoit ce fléau, en tout cas les réponses qui pourraient être apportées, qui peuvent être apportées à ce fléau qui représente l'inceste, de manière systémique. Donc c'est un grand plan de prévention, de formation, c'est aussi du point de vue de la justice, c'est du point de vue de l'éducation, parce que comment on fait quand il y a un enfant qui dépose une parole, parce qu'on parle beaucoup de libérer la parole, et je crois qu'il y a eu, avec MeToo notamment, ça s'est accéléré, c'est très bien. Comment on libère l'écoute? Aujourd'hui, il y a ce sujet-là. Comment on fait pour accueillir? Faut-il être encore formé pour accueillir aussi des paroles qui sont très violentes, comme celle d'un enfant qui aurait pu être abusé, etc., etc. Donc, cette loi reprend les différentes préconisations qu'il y a pu avoir et demande, parce qu'il y a un sujet de moyens. Moi, quand j'entends dire le lendemain ou quelques jours après le crime de la petite Liana, que j'entends le président de la République et Monsieur Darmanin dire qu'il n'y a pas de problème de moyens, et il y a un problème de moyens. Pas uniquement, effectivement, parce qu'il y a un problème, quand je parle de systémie, c'est un problème d'organisation de notre société, qui est quand même, on est dans un système patriarcal. Je veux bien qu'on le dise comme on veut, on est dans un système patriarcal. Et donc, des moyens, oui, cette loi, quand on additionne les différentes préconisations, mesures, c'est un peu moins de 3 milliards d'euros, qui sont demandés aujourd'hui pour pouvoir, effectivement, mener à bien ce plan de formation. Créer des unités et des juridictions spécialisées aussi, et mettre en place notamment les 78 préconisations de la loi de manière immédiate.
Alors, avant de revenir peut-être justement sur les moyens dont vous venez de parler, les éclairer dans leur pratique possible, revenir sur la réalité des enfants. 80% des violences ont lieu dans la famille. Et le reste, le deuxième poste, c'est les enfants sur les enfants. Et ça, actuellement, c'est un angle mort. On entend très peu parler de la violence des enfants sur les enfants entre un an, enfin, 2-3 ans et la majorité, disons, qui est un phénomène complexe, qui est souvent confondu avec le harcèlement. Enfin, il peut y avoir des liens. Et vous parliez d'écouter la parole. Les maisons Mélanie sont dans les gendarmeries sont quand même encore très peu nombreuses. Et puis le système EVARS, qui pouvait être une solution, une entrée, dysfonctionne, puisqu'il n'y a que 15% des écoles en France, qu'elles soient publiques ou sous contrat dans le privé, qui font ce travail d'éducation à la relation, à la violence et à la sexualité. Bon, après, c'est évidemment quelque chose de complexe, mais donc il y a bien un problème dans l'ensemble de la population et des familles. Et le chiffre dont vous avez parlé, je me permets de contester l'origine, enfin l'histoire personnelle des acteurs, des gens qui violentent les autres, les enfants en l'occurrence, puisque c'est un peu moins de la moitié des gens qui ont vécu eux-mêmes des souffrances et des violences dans leur enfance. Mais toujours est-il, comment faire alors pour... Je vous posais deux questions. Comment faire pour faire en sorte que des enfants qui souffrent dans leur famille puissent à un moment donné en parler? Comment faire pour traiter la question des enfants et des enfants? Et puis comment se fait-il, vous parlez de patriarcat, que les Suédois, les Canadiens, dont on s'inspire beaucoup, les Espagnols semble-t-il maintenant qui progressent, que ces peuples qui ne sont pas très différents a priori d'une autre, avancent à grands pas, ont pris des mesures concrètes, réalistes, où on arrive à aider les parents, notamment après la naissance des enfants, à avoir une vraie aide à la parentalité qui existe ici, mais qui est en fait très, très à la marge. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays en termes de mentalité pour qu'on en soit encore là?
Alors déjà, effectivement, vous parliez de l'Espagne, ce que je regardais. L'Espagne a clairement actionné des leviers, pour le coup, et a eu une politique volontariste très, très forte, puisque en Espagne, si on prend l'exemple justement concernant les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, le budget en Espagne est de 16 euros par habitant contre 5 en France. Et voilà, on voit bien qu'il y a deux fois plus de condamnations. Il y a eu des créations de tribunaux aussi spécialisés. Hein, tout à l'heure, je parlais d'unités de juridiction spécialisées. Donc voilà, l'Espagne a effectivement, pour le coup, mis en place des mesures très fortes. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Maintenant, moi, je suis très sensible, et c'est, encore une fois, cette loi intégrale a tenu compte aussi de tout ce qui avait été proposé et partagé. Je suis très sensible à la dimension de l'organisation aussi de notre société. Pourquoi je parle de système patriarcal ? Parce que au tout début, quand même, avant qu'on arrive à des crimes, etc., absolument abjects, il y a quand même une organisation, on a des systèmes dans notre pays, des organisations, notamment, on va mettre les pieds dans le plat, les milieux de pouvoir, et je sais de quoi je parle en étant en politique, ce sont encore des systèmes faits par et pour les hommes. C'est clairement organisé par et pour les hommes. Et dans ma bouche, je ne suis pas, pour que ce soit très clair, je suis pour l'égalité réelle. Donc ce n'est pas remplacer une domination masculine par une domination féminine, c'est vraiment tenir compte, en tout cas, déjà, dans ces milieux de pouvoir où il y a des décisions fortes qui se prennent, qu'on puisse avoir autant de femmes que d'hommes. Ça me paraît être déjà la base. C'est pas possible que dans notre pays, si on reprend, on va parler de l'Assemblée nationale, il y a à peine un tiers de femmes dans l'hémicycle. Enfin, ce n'est pas possible d'avoir une organisation complètement patriarcale. Et cela se ressent évidemment dans les décisions prises. Ça se ressent, je vais vous donner un exemple là sur ce qui se passe au niveau de suite à l'affaire Liana. On a eu beaucoup de discussions, que ce soit, je suis également conseillère régionale, pour voir au niveau du conseil régional ce qu'on pouvait mettre en place, au niveau, avec les lycées notamment, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Et il y avait déjà, on entend beaucoup plus les femmes s'exprimer. Moi, je veux entendre aussi les hommes. Quand il y a eu les manifestations devant les tribunaux, 90% de femmes étaient présentes. Donc ça témoigne bien du fait qu'il y a quand même une grande majorité d'hommes qui soit ne se sentent pas concernés, soit ont peur, soit se sentent, après pour des raisons que je ne juge pas, mais ça témoigne quand même du fait que dans ce pays, il y a un vrai sujet sur le fait de se sentir, que les hommes aussi se sentent considérés, se sentent, comment dire, et conscience, prennent conscience du fait qu'il y a un problème systémique concernant les violences faites aux enfants et aux femmes. Ça me paraît être un point extrêmement important. Donc, nos organisations doivent être davantage, évidemment, égalitaires, avec autant de femmes et d'hommes. Ensuite, sur les moyens, évidemment, on parlait vous parliez des VARS, effectivement, il y a des... Alors, VARS qui n'est pas obligatoire. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir évidemment avoir des espaces, en fait, pour accueillir les paroles. Enfin, dans une classe, c'est trois enfants par classe. Enfin, c'est considérable. Ça veut dire que, voilà, dans les classes de nos enfants, eh bien, il y a au moins trois enfants qui sont victimes d'inceste. Avec... Il y a une forme aussi de reproduction. Vous parliez des enfants entre eux. Effectivement, il y a des violences aussi qui sont commises entre les enfants, parce que là aussi, pour la plupart des enfants qui commettent et qui ont des comportements qui sont complètement défaillants, dysfonctionnants en tout cas, il y a aussi une forme de reproduction. Donc, c'est totalement systémique ça va être long. Parce que, voilà, il faut le dire aussi, c'est complexe, c'est long. Il y a aussi tous les phénomènes de dissociation, les phénomènes d'emprise, il y a l'amnésie traumatique, il y a plein de mécanismes psychiques, pour le coup, qui expliquent que c'est complexe, que c'est long. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue de l'organisation de nos institutions aussi, que ce soit, je parlais de la justice, de la police, de l'éducation, de la santé, on n'a pas parlé de la santé, du milieu professionnel, hein, tout ce que je cite là, tous ces secteurs-là sont pris en compte dans cette loi intégrale, puisque l'idée, vous l'avez compris, c'est de pouvoir intervenir dans chacun des secteurs de notre société dans lesquels il y a des violences sexistes et sexuelles commises sur des enfants et sur des femmes principalement. Donc...
On a vu à Paris l'affaire des centres de loisirs ou du périscolaire, On a vu quand même la complexité, on a vu que tout avait été mis sous le tapis depuis 2015, puisque tout était connu de 2015. Enfin, la problématique et sa densité, à mon avis, on trouvera sûrement ça en province. Je ne vois pas pourquoi les Parisiens seraient différents des provinciaux et vice-versa. Mais le déni, quand même, est une constante institutionnelle. Par exemple, les problèmes de harcèlement dans les écoles, c'est encore très compliqué de le traiter. Donc il y a des associations qui viennent de se créer, on les a reçues à la radio, il se passe des choses, mais on voit que c'est difficile parce que les parents doivent se remettre en cause, les enseignants doivent se remettre en cause, on doit aussi savoir comment on surveille et comment on accompagne ces problématiques qui ne sont pas simples, qui finalement peuvent sembler rendre moins libre chacun d'entre nous, parce que les parents disent « Oh, moi, c'est mon problème, l'éducation des enfants. » L'enseignant dit « Là, c'est mon espace, et puis je fais ce que je peux, mais voilà. » Et parfois, au-dessus de l'institution, la hiérarchie n'a pas trop envie de traiter le problème. Et quand je dis ça, c'est pas polémique, c'est qu'on peut même le quantifier actuellement. Et on connaît tous beaucoup de professeurs qui vivent des choses très difficiles. Et quand on voit le film sur Patty, l'abandon, on voit la complexité objective de ce qui s'est passé. Mais on voit aussi comment il y a des gens très lâches et des gens qui manquent de courage partout, y compris dans de belles institutions.
Mais vous avez utilisé le mot qui est très très juste, le déni, en fait. Il y a un sujet qui est le déni. Tout à l'heure, je donnais l'exemple, suite à l'affaire Liana, d'une forme de temps long. Je vois bien, on a eu beaucoup de réunions, d'espaces de discussion pour savoir concrètement comment, à l'échelle de la région, à l'échelle au niveau national, etc. Et je dois le dire, ce sont des hommes souvent, et encore une fois, c'est pas de la polémique, c'est factuel, qui disent il faut qu'on prenne le temps de discuter pour savoir comment est-ce qu'on peut agir, et puis il faut pas céder à l'émotion, il faut. Et là, il y a un sujet, parce que ça veut dire quoi? Alors, quand on est responsable, on ne peut pas être dans l'émotion. Mais moi, j'espère bien que les hommes et les femmes de notre pays ressentent de l'émotion, de la colère, de l'indignation, de la tristesse, quand on apprend, quand on sait que dans notre pays, il y a un enfant toutes les 3 minutes qui est victime d'inceste, quand il y a ce crime de la petite Liana, quand il se passe tout ce qui se passe en France avec des femmes, une femme tuée sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Enfin, j'espère qu'il y a de la colère et de l'émotion. Et en fait, donc là, déjà, il y a une forme de déni, ça c'est clair. Alors après, et là c'est la psychologue qui va parler un instant, mais du déni, pourquoi? Parce que ça vient toucher des choses sensibles chez certains ou chez certaines. Alors on préfère mettre un couvercle plutôt que d'en parler et de prendre des mesures. Enfin voilà, après on peut l'expliquer. C'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer, parce que c'est complexe. Et je respecte les mécanismes, chacun a ses mécanismes aussi de protection, etc. Sauf que là, maintenant, le temps du débat, j'ai envie de dire, on a besoin de débat, évidemment, on est dans une démocratie, on a de la chance. Mais sur ce sujet, maintenant, stop, quoi. En fait, on y va, on agit, il y a une loi qui est prête, elle est en train d'être travaillée, hein, avec le gouvernement, il y a des échanges qui sont en train de faire, avec le Conseil constitutionnel aussi, enfin voilà, le Conseil d'État, il y a différentes réunions au plus haut niveau de ce pays pour que ce soit solide. Et puis maintenant, ensuite, il faut y aller, et je crois qu'il faut avoir des mesures, on parlait des élus, je parlais des élus tout à l'heure, des organisations aussi au niveau au niveau des élus, au niveau du fait d'avoir des organisations beaucoup plus paritaires, et là on en est là maintenant, stop, en fait il faut avoir une égalité réelle dans ce pays, parce que les conséquences on les connaît. Donc oui, il y a encore un grand déni, en tout cas, voilà, peut-être pour se protéger. Le déni c'est l'art d'esquiver pour survivre. Donc
par rapport à ce que vous disiez, ce qui est quand même étonnant, c'est que par ailleurs, dans l'enseignement, pour les plus petits, ce sont quasiment que des femmes. Les gens qui s'occupent des gens à la fin de la vie sont pratiquement que des femmes. Les gens qui s'occupent des personnages, des personnes vieillissantes, ce sont des femmes. Donc il y a quand même une espèce de paradoxe. Enfin, rien ne va et les femmes sont là où c'est difficile. Enfin, en tout cas, on accompagne les gens dans des moments de transition, des moments difficiles. Donc c'est un petit peu... Enfin, il y a beaucoup de questions derrière. Et puis il y en a une que je voudrais vous poser qui ne peut pas s'épuiser dans un échange comme le nôtre, évidemment. C'est la question de la relation des adultes et de l'enfant, de la place de l'enfant, comment se représentent les enfants et ses enfants, ses propres enfants. C'est quoi la liberté de nos enfants? C'est quoi la place de nos enfants par rapport à nous, à nos rêves, à ce qu'on attend d'eux, à ce que... Et là, il se joue peut-être quelque chose sur des mentalités. Est-ce que les Français, parce que les Canadiens semblent avoir accepté, par exemple, qu'on rentre dans les familles, qu'il y a des tiers, qu'il y a du tiers. Par exemple, sur les questions de conflits conjugaux, sur plein de sujets, il y a beaucoup plus de tiers que chez nous. Donc, et on les met pas dehors. Enfin, on n'est pas dans ces blancs, ces noirs ou la répression, la non-répression. Il y a quelque chose que les gens acceptent, de l'accompagnement, en fait, dans les moments difficiles de la vie, où les enfants pourraient être victimes des conflits des parents ou des malaises ou des malheurs ou des maladies aussi des parents. Donc, qu'est-ce qui fait que... Bon, c'est qu'une question, je ne vous la pose pas directement, on n'a pas le temps de la traiter, mais il y a quand même quelque chose peut-être sur la question de comment on perçoit les enfants dans notre société, nous, les parents, ou les institutions, les penseurs, les experts, les psychiatres, parce qu'il y a plein de gens qui se mêlent de cette affaire-là. Parce que si on mettait tous les livres qui paraissent sur cette question depuis 30 ans, ça ne tiendrait pas dans votre pièce.
C'est très vrai. Sur la première partie de votre question, moi, je ne suis pas surprise, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, les femmes sont principalement sur des métiers liés aux soins, au care, sur l'enseignement, sur la santé, sur le fait de prendre soin aussi de nos petits papis et petites mamies dans nos EHPAD, dans les hôpitaux, etc. Effectivement, on voit beaucoup de femmes sur le soin, sur le lien, sur ces métiers du lien, de la proximité, etc. Mais qui prend les décisions dans ce pays ? Encore beaucoup, hein ? Des hommes, voilà. Donc, en fait,
mais est-ce que dans la famille, c'est plus compliqué ? Ces mamans-là élèvent des garçons, des filles et des garçons, parce que c'est quand même les garçons qui passent le plus à l'acte, mais elles élèvent des garçons. Qu'est-ce qui se joue pas ou qu'est-ce qui se passe pas par rapport aux questions que vous posez, en tout cas ?
Mais parce qu'on est encore dans... Évidemment, on est encore... C'est Lucille Pétavin, l'historienne, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le coût de la virilité » en France, et qui a estimé le coût de l'éducation dans notre pays, où je vais aller très vite, hein, mais les petits garçons jouent avec les petites voitures et plutôt sur des jeux avec de la force, parce que le petit garçon, il doit être fort. Et donc, de fait, elle a estimé, puisque là aussi, principalement, ce sont plus tard les hommes qui violentent, qui sont dans les prisons pour des faits commis, des faits graves liés avec des choses détruites ou des vols, etc. Donc, elle fait ce lien-là, et les petites filles qui jouent avec la poupée, qui sont dans le soin, qui sont dans l'enseignement, etc. Et elle fait tout ce lien, et elle l'a estimé un coût à, je sais plus, c'est 90 milliards, je crois, c'est considérable, en fait, si justement on avait, là c'est aussi une dimension systémique, si notre éducation était beaucoup plus, si les petits garçons jouaient davantage à la poupée et étaient plus dans des jeux en lien avec le soin, et qu'on... Parce que d'une manière inconsciente aussi, moi je dirais de moins en moins, hein, je trouve qu'il y a là aussi, parce qu'il y a, il y a aussi plus d'égalité quand même dans les familles, avec le papa qui intervient, qui a aussi une autre place dans l'éducation des enfants. Ça a évolué par rapport, je repense à mes grands-parents, où c'était vraiment la dimension, mon grand-père qui était en bout de table et qui pouvait crier, et qui était moins dans la tendresse, en tout cas, avec ses enfants et petits-enfants. Donc ça se ressent, mais vous avez raison, on est encore, parce que notre éducation, elle est encore basée beaucoup sur le bleu pour les petits garçons, le rose pour les petites filles, le dur pour les petits garçons et le doux pour les petites filles. Et donc ça, eh bien, ça génère effectivement, avec ensuite un système, une organisation de notre pays fondée principalement et occupée principalement par des hommes, avec cette notion de pouvoir. Mais ça, c'est en train de bouger, mais il nous faut accélérer, effectivement. Et là, ce sont des programmes d'éducation, c'est de la parentalité. Vous avez parlé tout à l'heure, très justement, c'est de l'aide à la parentalité. Mais ça se joue dans la petite enfance. Ça se joue, enfin, moi, je crois que ça se joue dans la petite enfance. Et encore une fois, je vais insister, ça se joue sur l'organisation, la structuration et les milieux de pouvoir dans notre pays, où ce n'est pas possible d'avoir une domination masculine dans bien des milieux, parce que les décisions qui sont prises se ressentent. Je suis désolée, là aussi, ce n'est pas des jugements de valeur, parce qu'il y a des très bons décideurs dans notre pays à bien des égards, mais le pouvoir ne s'exerce pas de la même manière. On le voit bien, c'est très intéressant, nous, à l'Assemblée nationale, il y a des regards différents quand c'est porté par les femmes, par les hommes, c'est très complémentaire. Donc on a besoin de cette égalité réelle.
Pour revenir sur cette fameuse loi intégrale, on peut dire à vous entendre que ça va permettre de récupérer tous les travaux, tous les projets et de faire des choix prioritaires pour mettre en œuvre véritablement, on est d'accord, des actions concrètes pour écouter les enfants, soigner, aider, réprimer bien entendu, parce qu'il y a quand même un problème, on voit des jugements quand même qui angoissent et qui intéressent le monde, de voir des gens qui sont condamnés quasiment à rien, et qu'à côté de ça, le gamin qui vole un paquet de bonbons chez le commerçant d'à côté va faire plus de prison. Enfin, je caricature un peu, vous m'avez bien compris, mais voilà, donc... Alors, pour les auditeurs et les auditrices, en termes de timing et en termes de contenu, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qui va se passer, surtout qu'on arrive en clé présidentielle, pour que les choses puissent être actées et commencer à devenir opérationnelles, parce qu'une loi, il faut ensuite, évidemment, la décliner et la rendre opérationnelle. Qu'est-ce que vous visez avec vos collègues, j'ai bien compris, d'intergroupe, enfin, c'est pas quelque chose de sectaire ou de partisan, si j'ai bien compris, et en ça, c'est drôlement intéressant. Peut-être, voilà, en quelques mots, nous dire à nos auditeurs ce qu'il en est.
Oui, tout à fait. Donc, cette loi intégrale reprend et comprend notamment 78 mesures applicables immédiatement. J'ai évidemment pas le temps de rentrer dans les détails, mais des mesures relatives à la police, à la justice, des mesures relatives à l'enfance, des mesures relatives, j'en parlais tout à l'heure, au travail, des mesures relatives aussi à la santé. Donc voilà, les domaines, en tout cas les différents secteurs dans lesquels s'exercent des violences sexistes et sexuelles ont été identifiés et il y a des mesures qui sont applicables immédiatement, notamment en matière de prévention, de formation. Il y a un énorme plan de formation qui est prévu dans tous ces secteurs-là. Et puis ensuite, effectivement, la dimension répressive, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, je crois que c'est 1% seulement des agresseurs condamnés dans les cas d'inceste et 3% des agresseurs généraux des violences sexistes et sexuelles faites aux enfants condamnés. Donc il y a un vrai sujet aussi, d'ailleurs, là aussi, malheureusement, l'actualité récente avec la petite Liana en témoigne. Donc voilà, d'un point de vue, en tout cas, de mesures applicables, et c'est pour ça et je voudrais avoir un message de reconnaissance, de gratitude et de solidarité profonde avec toutes les associations qui se mobilisent devant les tribunaux, qui sont très présentes à Dijon comme partout en France, pour justement, je pense au collectif Enfantis, je pense à l'association Aperto à Dijon, je pense à nous toutes, bref, à beaucoup de à Solidarité Femmes et à bien d'autres associations qui sont mobilisées pour cette loi intégrale aux côtés des parlementaires. Effectivement, vous l'avez dit, et ça c'est très intéressant, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'intelligence, elle est en transpartisan, c'est une loi transpartisane, donc c'est pas un parti politique qui la porte, même si ça a été initié par le Parti Socialiste et ma collègue Céline Thiébaud-Martinez et d'autres, mais voilà, elle est signée par d'autres et soutenue par d'autres partis politiques, et ça c'est évidemment très très important, et donc l'idée c'est qu'elle puisse être votée, passé à l'Assemblée nationale, débattu à l'Assemblée nationale et voté ensuite à la rentrée. Et le Premier ministre s'est engagé en octobre à ce qu'elle puisse être débattue à l'Assemblée nationale, votée, parce que vous savez, après, il y a le système de navette parlementaire. Mais l'idée, c'est qu'on aille vite pour qu'elle soit votée avant l'élection présidentielle. Parce que je ne crois pas qu'avec... Je ne pense pas qu'une délinquante condamnée puisse être présidente de la République. Je parle de Marine Le Pen. Mais si ça venait à advenir, je ne crois pas que cette loi intégrale soit portée par le Rassemblement national, parce qu'elle ne fait pas partie des partis qui ont signé cette loi.
Juste un mot dans ce projet de loi sur l'écoute, c'est-à-dire comment on va améliorer le fait de pouvoir que les enfants puissent être entendus, puissent être repérés. Puis entendu, est-ce que c'est prévu ?
Oui, tout à fait. Il y a tout un pan sur l'enfance. Et vous avez raison, libérer l'écoute. Ça, c'est Romain Lemire, d'ailleurs, l'auteur de l'ouvrage Clément, sur ce qu'il a vécu en tant qu'enfant en matière d'inceste. Et il dit qu'il faut tout un village pour violer un enfant, justement, parce qu'il y a ce système, justement, qui fait que le violeur est en général très protégé. Il y a du déni. Romain Lemire parle de ça, il dit qu'on a libéré, on a réussi avec MeToo à libérer la parole. Là, il faut libérer l'écoute. Et effectivement, ben, ça passe par la formation, parce que ça ne s'improvise pas d'écouter et d'accueillir. Tout à l'heure, je parlais d'accueillir la parole quand elle est en plus d'un petit ou d'une petite à l'école maternelle, primaire, et quand bien même au collège. Et après, il faut avoir aussi, évidemment, il faut être formé et pouvoir accueillir, savoir qui ensuite, quel levier actionner pour pouvoir déclencher un signalement, etc. Donc là, c'est tout l'aspect formation qui est évidemment pris en compte et dans cette loi intégrale, évidemment.
Oui, c'est un travail qui va être très long. Et puis un dernier point qui est sensible, c'est la question de la répression. On l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que beaucoup de pédocriminels, qui, une fois qu'ils sont libérés, recommencent systématiquement. Et il y a même des psychiatres et des spécialistes qui sont très pessimistes sur le devenir de ces personnalités. Et c'est vrai que l'émotion, alors elle peut être exploitée politiquement, on le sait bien, mais l'émotion, c'est aussi, enfin, pour chacun d'entre nous, c'est complexe d'accepter que quelqu'un qui est un criminel en puissance soit libéré. Alors comment est-ce que cette loi traite de cette question des sanctions et du soin?
Oui, tout à fait. Il y a toute une partie, vous l'avez dit, de soins, enfin déjà de répression, de sanctions, de soins ensuite. Et il y a, tout à l'heure, vous parliez du Canada. Et là, en France, on a un levier pour avoir travaillé le sujet et l'avoir approché de près également en tant que psychologue. Ça s'appelle la justice restaurative. Et là, en termes de limites de récidive et de soins aussi, puisque ça fait partie du soin, c'est extrêmement intéressant aussi. Donc là, former aussi des professionnels, des milieux pénitentiaires notamment, des psychologues ou autres, à la justice restaurative, de manière aussi à ce qu'il y ait tout ce travail qui se mette en place pour ne plus reproduire et limiter la récidive, évidemment. Et ça fonctionne. En tout cas, au Canada, où ils l'ont mis en place à grande échelle, ça fonctionne. Et ça me paraît être très intéressant aussi actionner. Donc là aussi, on en parle.
Très bien, je vous remercie. Donc j'étais avec Madame Océane Godard, députée de Côte d'Or. Et nous avons évoqué la question des violences sexuelles contre les enfants et surtout le projet de loi cadre intégrale, et nous aurons l'occasion de solliciter Madame la députée, puisqu'elle est par ailleurs rapporteure d'une commission très importante sur l'intelligence artificielle. À bientôt sur Radio Shalom Bourgogne.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.